RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le CEO de l'Association des banques et banquiers Luxembourg, Jerry Gerwitsch. Je l'ai bien prononcé ?
Parfait.
Alors, merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Comment allez-vous ?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais très bien en cette fin d'année, bien chargé, mais en bonne santé, merci.
Super. Alors, on se retrouve dans un contexte particulièrement intéressant, puisque le prix des logements a baissé ces derniers mois, que les taux ont chuté et que les aides fiscales ont récemment été prolongées par le gouvernement. Donc, vous n'êtes pas forcément objectif sur la question, mais je vous la pose quand même. Est-ce que c'est actuellement le moment rêvé pour acheter un logement au Luxembourg ?
Vous venez d'évoquer les trois variables qui ont évolué dans le bon sens pour acquérir un bien immobilier à Luxembourg. On fait état d'une baisse des prix de logement dans l'existant aux alentours de 20%, dans la nouvelle construction aux alentours de 9-10%. De l'autre côté, les mesures du gouvernement qui aident certainement. Et puis, effectivement, les taux qui ont connu une baisse. Maintenant, le taux directeur est à 3%, donc 1% de moins. Donc tout ça renforce le pouvoir d'achat de l'acquéreur final, du client final. Et ce qui permet cette équation aux banquiers aussi d'accorder des crédits à nouveau. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de demandes. Les banques ont de plus en plus de demandes. On augmente par rapport survue annuelle fin trimestre, troisième trimestre, on a des augmentations de 44%. Donc ça veut dire que pas seulement il y a plus de demandes, mais aussi plus d'accords de crédit. Mmh. Donc tous ces facteurs qui ont évolué dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Objectivement, je crois oui, si on peut croire les dernières statistiques de l'Observatoire de l'Habitat et de la Banque Centrale, on voit quand même que la diminution des prix s'est ralentie sur l'année, mais aussi sur le dernier trimestre. Les appartements sont grosso modo flat, je crois que moins 0,2%, mm-hmm. alors que pour les maisons existantes, il y a même une hausse de prix à nouveau. Donc, mais grosso modo, je crois qu'on se trouve à un niveau où on a trouvé le plancher pour, mmh. je dis, de l'existant. Dans la construction nouvelle, la VFA, il y a peut-être encore de la marche à faire pour que le pouvoir d'achat de ces clients qui sont intéressés, parce qu'on voit avec la demande, il y a de l'intérêt, mais il faut qu'ils soient en mesure d'acheter. Et donc peut-être à ce niveau-là, il y a encore quelque chose à faire.
Mmh. Donc vous avez lancé un appel aux particuliers au mois d'octobre afin qu'ils sollicitent des crédits. Vous avez notamment déclaré que les banques voulaient accorder des prêts. Vous l'avez encore plus ou moins dit là, il y a quelques instants. Au vu des circonstances donc particulièrement favorables, je pense notamment aux aides fiscales qui ont été donc prolongées jusqu'à, si je ne me trompe pas, le 1er juillet 2025. Est-ce que cet appel donc aux particuliers à discuter avec leur banque, il reste d'actualité ?
Oui, je dirais l'évolution de ces dernières semaines et mois confirme mes propos d'il y a quelques mois. Si on regarde en arrière, le logement stock en février, c'était le point de départ pour trouver des améliorations. Le gouvernement a annoncé de vouloir améliorer les conditions pour l'acquéreur, même pour l'investisseur, parce qu'il y avait une demande de logement, ou un manque de logement. De là, les intervenants, les parties prenantes se sont réunis, on a amélioré, en mai les premiers résultats de ces négociations ont été annoncés, puis on était mis en place, l'été est passé, les gens partent en vacances, etc. Prologue a été constitué début juillet, et donc on voit qu'à partir de septembre maintenant, effectivement, le nombre de demandes et le nombre de dossiers accordés a augmenté. Et donc, on est en train de créer cette dynamique et je crois que le gouvernement a très bien compris qu'il ne fallait pas maintenant casser cette dynamique et a donc prolongé les mesures pour 6 mois à nouveau. Et je crois que c'est effectivement à nouveau un bon moment pour ceux qui s'intéressent à acheter, qui peuvent le faire.
Mais d'ailleurs, l'élément déclencheur, pour avoir suivi la situation tout au long de l'année, ça m'a l'air quand même d'être les baisses de taux auprès de la Banque Centrale qui, bien évidemment, drive le reste du marché.
C'est un élément très très important. Il faut aussi, lorsqu'on mentionne les taux, revenir en arrière. On vient pratiquement d'une décennie de taux bas. Donc toute une nouvelle génération, qui j'irais jusqu'à 35-38 ans, n'a pas connu des engagements financiers avec des taux élevés. Donc c'est une adaptation à cette nouvelle réalité avec des taux plus élevés, alors qu'en moyenne, très long terme, 3-4% n'est pas très élevé. En revanche, avec des prix immobiliers très élevés, ce n'est plus été faisable de faire un tel dossier. Donc c'est un ajustement à la nouvelle réalité avec ce nouveau environnement de taux où aujourd'hui on a une baisse. C'est l'ajustement du pouvoir d'achat. La baisse des prix a été une conséquence de tout cela, et on voit que maintenant on arrive à un nouveau, on peut dire équilibre, mais en tout cas à une situation où une très large partie des acheteurs potentiels peuvent retourner sur le marché.
Alors avant de se projeter, peut-être pourrions-nous revenir sur cette année 2024. L'année 2023, vous le savez, avait été marquée par un bénéfice annuel record des banques au Luxembourg, si je ne me trompe pas, 6,6 milliards d'euros. Qu'en est-il de cette année 2024? Est-ce que les voyants sont toujours au vert dans le secteur bancaire?
De manière globale, les résultats en 2024 seront aussi très très bien. Et ça s'explique principalement par le fait que les taux d'intérêt qui sont maintenant en baisse, mais ils ne sont que plus tardivement que prévu. En fait, toutes les banques pour 2024 ont prévu une baisse des taux plus rapide, ce qui ne s'est pas fait. Et donc la marge d'intérêt est encore restée assez confortable pour 2024, ce qui est lié aussi en vue d'une baisse des taux, d'une baisse de la marge d'intérêt. Les banques ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer leurs charges. Aujourd'hui, ils ont réussi à diminuer les charges, alors que les revenus sont restés assez stables, ce qui fait que le résultat est encore très très bon. Mais la problématique en soi est décalée et on s'attend à ce que 2025 sera beaucoup plus difficile, ce qu'on attendait déjà pour cette année-ci, mais comme la Banque centrale a hésité, en suivant toujours, je dirais, l'évolution de l'inflation, a pris en ce sens du retard pour diminuer les taux, ce qui se fait maintenant grosso modo depuis la rentrée seulement.
Et puis à un moment ou à un autre, les banques vont quand même souffrir du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de prêts conclus pendant un an et demi.
C'est juste, vous l'aviez mentionné, les banques veulent faire du crédit, c'est leur métier. C'est d'un côté offrir une solution stable et sécure pour les dépôts, l'épargne des gens, et de l'autre côté du crédit raisonnable, parce que les banques travaillent avec l'épargne de ses clients. Donc on ne peut pas donner à un mauvais dossier, un mauvais projet, un crédit où on risque de perdre l'argent. Et d'ailleurs, ce serait, si on continue cette réflexion, ce serait un risque pour la stabilité économique d'un pays.
Donc, l'a vu aux États-Unis avec la crise des subprimes.
Voilà. Donc les banques veulent faire du crédit. Maintenant, l'avantage, si on veut, si pendant un an ou une demi-année, on ne fait pas de crédit, comme les crédits sont sur, je crois, la moyenne actuelle est, pour les prêts immobiliers est 22 ans. Donc si pendant un an, vous ne faites pas beaucoup de crédits, ce n'est pas que vous avez une chute nette dans les revenus d'intérêt, mais c'est dans le temps que ça se démontre. Donc effectivement, dans les résultats des banques, on le verra un peu plus tard.
Alors je me réfère ici à un communiqué de l'ELC qui date du mois d'avril dernier. Lorsqu'une banque fait de gros bénéfices, est-ce que c'est forcément sur le dos de ses clients?
La banque est une société commerciale avec une grande responsabilité économique et sociale. Une banque qui ne fait pas de bénéfices est un risque pour une économie. Donc des banques stables sont des banques rentables. Est-ce que c'est sur le dos de ses clients? Non, parce que lorsque les taux étaient très très bas, voire même négatifs, les banques n'ont pas appliqué ces taux négatifs à leur clientèle privée. Donc la marge d'intérêt, en termes de volume, disons, admettons que les montants sont restés les mêmes, la marge d'intérêt a diminué. Parce qu'on a l'argent que les banques doivent garder placé en interbancaire et à la banque centrale, était rémunéré à un taux négatif, donc coûter de l'argent. Donc après cette période de taux négatif, la marge entre les dépôts et les crédits n'a pas forcément augmenté, mais on ne paye plus sur l'excédent de trésorerie que les banques avaient. Donc on revient à une situation, je dirais plutôt normale, dans l'activité bancaire, alors que de l'autre côté, une décennie de taux bas, voire négatifs, a poussé les banques à travailler sur d'autres aspects qu'elles maîtrisaient, c'est-à-dire ses charges, ses dépenses automatisées, etc. Donc c'est pour ça que l'augmentation des revenus des banques, des résultats des banques, était très très importante avec cette hausse des taux. Mais les banques, certes, il y a un certain retard, ont ajusté les taux des dépôts et des crédits en fonction des ajustements des taux ou des changements de taux de la Banque centrale. Donc il y a des statistiques qui montrent que la marge est sensiblement restée la même. Donc c'est pas que ces résultats se font sur le dos des clients.
Oui, et puis comme vous le dites, une banque qui fait des bénéfices, c'est forcément bon pour l'économie luxembourgeoise.
Une banque qui fait des bénéfices, qui est rentable, a déjà les fonds propres nécessaires pour pouvoir faire du crédit, parce qu'il y a une réglementation très stricte sur ce sujet. Et puis, elle a les liquidités pour donner du crédit à l'économie pour se développer.
Donc l'année dernière, excusez-moi, on a beaucoup parlé des déboires des clients qui avaient emprunté à taux variable. C'est d'ailleurs une spécificité du marché luxembourgeois, d'autant avoir recours au taux variable. Ça mène donc à cette question, quelle est désormais la proportion de crédits à taux variable qui sont conclus au Luxembourg? Parce que je pense qu'à une époque, on était à 50-50 quasiment.
Oui, à une époque, on était plutôt à 100% et de taux variable.
Ah oui.
Mais ça fait longtemps, mais il faut aller chercher la réponse avant l'arrivée de l'euro. On avait le franc luxembourgeois qui était attaché au franc belge, mais ces deux marchés, pour cette devise, n'étaient pas très liquides. Donc, offrir un taux fixe dans un marché pas liquide aurait été très très cher. C'est la raison pour laquelle, culturellement, c'était plutôt un taux variable qui était offert ou commercialisé à Luxembourg. Avec l'euro, ça s'est amélioré, les banques se sont adaptées, mais à un moment donné, les taux fixes étaient beaucoup plus chers que le taux variable, alors le client s'est dit, je reste avec le taux variable. Et effectivement, au début de l'ère euro, le taux directeur de la Banque centrale était beaucoup plus intéressant qu'un taux fixe, parce que la courbe des taux, ça devient maintenant technique, mais la courbe des taux était très très positive. Et lorsqu'une banque offre un taux fixe, elle se couvre dans le marché sur une certaine durée. Admettons 15 ans, elle regarde dans le marché combien me coûte un taux à 15 ans. Et elle offre ça à son client moyennant une marge pour ses services et son travail. Et la gestion du risque. Pour le taux variable, c'est le taux directeur de la Banque centrale qui joue. Lorsqu'il y a une trop grande différence, le client privé se dit, oui, un taux fixe à 5%, ce serait bien, mais j'ai un taux variable à 2,20, 2,50, ça fait une grande différence. On a malheureusement appris ces dernières deux années que ça peut faire une grande différence en termes de remboursement. Maintenant, avec toute l'expérience que les consommateurs et aussi les banques ont fait, avec aujourd'hui une courbe qui est quand même assez plate, on peut offrir des taux fixes qui sont parfois inférieurs aux taux variables. À nouveau, à ce moment-là, la courbe est inversée. Et aujourd'hui, on voit que 2/3 des crédits se sont faits à taux fixe et 1/3 à taux variable. Donc, quelque part, on protège maintenant avec un taux fixe, on se protège contre un risque d'une augmentation des taux. Maintenant, en fonction de la situation personnelle des clients, est-ce qu'on prend un taux fixe à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce que les banques proposent, ou un taux variable, ça peut faire du sens dans sa logique très spécifique à un dossier.
Vous avez dit donc 2/3, 1/3, c'est clairement lié à la crise qu'on vient de traverser, les 18 mois, quasiment 2 ans, parce qu'avant ça, on était autour de 50-50, c'est bien ça?
C'était, oui, je dirais, avant la hausse des taux. À nouveau, si vous êtes dans cette presque 10 ans avec des taux bas, le client privé et même le banquier, dans tous les jours, il traite des dossiers avec des taux très très bas depuis une décennie. on ne pense même pas à, je dirais, au niveau du gestionnaire, à ce que le taux va augmenter de 1% à 4%. On n'a pas vécu. Au niveau de la gestion du risque des banques, cet exercice est fait. Et on fait attention à cela, parce qu'aucune banque a intérêt à offrir un crédit à un client qui demain ne peut pas le rembourser. Ça, on veut éviter, personne n'est gagnant là-dedans. Donc cet exercice de gestion de risque est fait, mais le simple fait d'avoir pendant 10 ans à traiter avec des taux bas, on ne peut pas s'imaginer que, et dans le laps de temps où on a connu les augmentations de taux était très très court par rapport à 10 ans. Dans 12 mois, on avait cette augmentation. Et donc c'était quelque part un choc pour le système. Et bon, la conséquence était maintenant cet ajustement des prix dans l'immobilier.
Alors, vous avez mentionné précédemment donc, ce projet Prologue. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails à ce sujet-là?
Oui, donc on a aujourd'hui une situation dans le marché que les ventes d'appartements et de maisons existantes ont bien repris. La croissance est là, elle est confirmée. En revanche, pour les nouvelles constructions, et on a besoin de nouvelles constructions parce que notre démographie montre qu'on croit toujours et il faut loger ces gens. Donc, la nouvelle construction est nécessaire et elle est aujourd'hui pratiquement à l'arrêt. Les différentes banques actives sur le marché de l'immobilier résidentiel à Luxembourg se sont mis ensemble sous l'impulsion ou sous le support du ministère des Finances pour trouver une solution pour redémarrer, je dirais, cette construction. Et donc, de cela est né Prologue Luxembourg SA, un véhicule dédié pour relancer des projets de VFA. L'idée, c'est de dire que les banques qui participent ont déjà donné leur accord pour un projet de promotion immobilière, mais il manque un taux de prévente nécessaire, grosso modo 80%, pour que la banque émette sa garantie d'achèvement, qui est d'ailleurs une garantie forte pour l'acquéreur final. Donc le taux de pré-vente de 80% n'est pas atteint, mais le dossier est réalisable, tient la route. Prologue, l'idée c'est de dire, mais on donne assez de moyens financiers à Prologue pour créer entre 800 et 1300 appartements sur le marché, en sachant que le besoin est dans un entour de 3500, donc ce serait un tiers de ce qui est nécessaire pour le marché. Donc vraiment un élément fort pour relancer la construction.
L'idée, et ça donne quoi depuis le mois de juillet? Parce que c'est le mois de juillet que ça a été...
Donc ça a été lancé. L'idée, c'est de dire que le promoteur a besoin d'un taux de prévente moins élevé. Aujourd'hui, la barre est mise à 50. On a aujourd'hui un dossier qui a été validé par Prologue, donc un client qui a donc cet accord pour financer par Prologue la construction en attendant qu'il vend le reste de ses appartements pour ce projet. On voit aujourd'hui que le succès est limité et on a dès le départ dit on va lancer le projet et on va en fin d'année analyser ce que ça donne, est-ce qu'on est dans le marché, est-ce qu'on doit encore ajuster. La décision a été prise de continuer à offrir cette solution pour les 12 mois à venir. Donc l'idée, ce n'était pas de garder ça éternellement, donc à un moment donné, l'activité Prologue va s'arrêter. C'est pour relancer la construction. Donc on a aujourd'hui, le conseil d'administration de Prologue a décidé de continuer pendant 12 mois, et ils ont commencé les réflexions pour revoir les conditions d'acceptation des dossiers, notamment donc le taux de prévente. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas encore annoncer à quel niveau ce taux va se trouver parce que les décisions ne sont pas encore prises, mais l'idée c'est de début janvier, mi-janvier, annoncer cela, communiquer cela, et ça devrait à ce moment-là motiver des promoteurs à venir voir discuter avec sa banque pour le financement par Prologue de la partie construction. Parce que l'idée, à nouveau, ce n'est pas de garantir la marge du promoteur, mais l'idée, c'est de produire, de mettre du logement sur le marché. Parce que c'est ça ce qui nous manque. Et c'est ça aussi qui va enlever la pression sur les prix.
Et sur les loyers, parce qu'on le voit.
Et sur les loyers.
Les loyers se sont envolés hein, ces derniers deux ans. Donc vous avez mentionné un projet, je ne sais pas si vous pouvez en parler. Ça représente combien de logements, celui qui a été validé?
Je n'ai pas de détails là-dessus.
Okay.
Donc ce sont des données sensibles qui ne sont pas partagées avec la BBL.
Alors, on a également discuté auparavant de cette plateforme qui a été mise en ligne, qui permet à tout un chacun de voir à quelles aides ils peuvent prétendre. Ouais. Vous vouliez peut-être dire un mot là-dessus?
Oui, donc on est en constant échange avec la chambre immobilière. Je crois qu'on a une bonne relation avec eux et j'estime que le site aide en pluriel.lu était quelque chose de nécessaire. Différentes banques ont déjà adapté et le partage, je crois, aussi sur leur site internet. Mm-hmm. Je crois que c'est très louable d'avoir mis ça en place où on peut, pour une première approche, si en tant que client final, j'ai cette volonté d'acheter un bien, de voir où est-ce que je vais en fin de compte me situer avec combien de moyens propres, combien de remboursements. C'est pour découvrir ce que ça représente avec tous les frais afférents de l'achat immobilier. Après, avec cette information, on doit toujours aller voir son banquier, mais au moins on a une idée claire, est-ce que c'est faisable ou non. Le passage chez le banquier est nécessaire, pas seulement pour avoir le crédit, mais pour analyser en détail sa propre situation. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans un tel simulateur, mm-hmm. mais il faudra donc voir quelles sont les différentes dispositions individuelles qui font que le crédit puisse passer ou puisse peut-être pas passer, ou on doit faire des ajustements. Mais je crois que comme point de départ, c'est un très très bon outil.
Ouais, alors, un constat a dû être fait, hein, si cette plateforme a été mise en place, un constat du fait que peut-être tout un chacun n'est pas vraiment informé sur ces aides auxquelles il a accès, auxquelles il a droit. On le voit nous-mêmes dans les médias, hein, certaines aides qu'on annonce ne sont pas forcément connues de tout le public.
C'est juste le problème, c'est aussi que ce ne sont pas toujours les mêmes ministères mm-hmm. qui donnent les différentes aides. Et donc, ce site a le mérite de regrouper, en fait, toutes les principales aides que le gouvernement offre à ses concitoyens.
Très bien. Alors, vous n'avez évidemment pas de boule de cristal, mais certainement des informations, des tendances à nous révéler. À quoi est-ce que vous vous attendez pour l'année 2025 sur le marché du logement et sur le secteur bancaire? Personnellement, je tablerai sur une progression de l'activité pour l'existant, mais pour moi, le gros point d'interrogation reste quand même le neuf.
C'est juste, d'un côté, je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que les taux vont continuer à baisser. D'ailleurs, les économistes, la plupart des économistes prévoient une baisse en 25 de peut-être encore 1%, donc le taux directeur diminue de 3 à 2, et donc l'impact sera évident sur les taux débiteurs des banques. Et de l'autre côté, au niveau de la nouvelle construction, on voit, donc j'avais évoqué que les dossiers des ventes sur l'existant ont augmenté fin troisième trimestre sur base d'une année de 44%. Mm-hmm. Elles ont aussi augmenté dans la nouvelle construction, seulement de 20-21%.
Par rapport à une année qui était très...
C'est clair, on vient de très très loin.
Ouais.
Mais la tendance est positive. Et je crois que ça va continuer à reprendre. Si on voit, il y a deux éléments qui me font dire ça. Si on analyse en détail, on lit l'analyse de l'Observatoire de l'Habitat, on voit que la vente de terrain est encore très faible, mais s'il y a vente de terrain, c'est dans les régions, je dirais, de la ville de Luxembourg, les plus prisées. Et c'est normalement, après une crise, le cas, lorsqu'on revient sur un marché, on achète là où on dit qu'il y a plus de stabilité de prix. Donc pour moi, c'est un signe précurseur que ça va s'améliorer, que si les gens reviennent sur le marché. Un autre sujet qui nous préoccupe, et d'ailleurs on estime clairement que Prologue est une solution à cela, c'est remettre la confiance dans le marché qu'on peut aujourd'hui signer avec un promoteur pour un appartement ou une maison. Aujourd'hui, les acquéreurs potentiels ont peur que de signer aujourd'hui pour deux raisons. Une, c'est quand est-ce que la construction va commencer, donc quand est-ce que ce sera achevé. Et puis, deuxièmement, est-ce que la société, les corps de métier ne vont pas faire faillite. Je crois que ça, c'est la grande peur. Donc, un promoteur qui, demain, indique à son client final, j'ai mon dossier qui a été déjà validé par la banque, et en plus, maintenant, j'ai la confirmation de Prologue, j'ai le financement de la construction avant d'avoir mon taux de prévente atteint, c'est une garantie complémentaire que non seulement la banque, mais aussi Prologue qui fait une analyse complémentaire, que le dossier est viable. Et donc, c'est-à-dire une analyse est faite derrière aussi, qui sont les intervenants, etc. Il peut toujours arriver encore quelque chose, mais je crois qu'on a une certaine confirmation que ce dossier tient la route et la construction va commencer. Donc les gens verront sur le terrain, ils vont voir le site, etc., à voir qu'il y a des bonhommes qui travaillent. Et lorsqu'on signe, on sait très bien, le promoteur professionnel sait très bien dire que la construction sera achevée dans 18 mois, 24 mois, etc. Donc c'est cette confiance que Prologue veut réinstaurer dans le marché. Et je crois que ce signe sera très très fort et la construction va redémarrer.
Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur Gerbitsch, merci de vous être déplacé. À nos auditeurs, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. On se retrouve au mois de janvier pour le premier épisode de la Bulle Immo de l'année 2025. Merci beaucoup.
Merci à vous.